l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois donc Daniel Heldin du Centre Documentation Tiers-Monde et Guy Guyot qui représente le collectif Stop Armes Nucléaires 34. Alors, tout d'abord, je vais donner la parole à Daniel Heldin, puisque animatrice du Centre de Documentation Tiers-Monde de Montpellier, vous préparez pour ce soir même une soirée avec l'Institut de Recherche pour le Développement.
Oui, merci, bonjour, et je suis contente de venir vous présenter cette soirée qui est co-organisée donc, par l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, avec le Centre de Documentation Tiers-Monde, une association. Je trouve que ce tandem est vraiment intéressant nous vous proposons ce soir de découvrir ce qui, à Madagascar, nous pose question aujourd'hui. Pose question et à laquelle tâcheront de répondre les conférenciers qui vont donc ouvrir un débat sur la situation économique et politique de ce pays qui est très complexe. Ensuite, nous aurons une rencontre avec des associations de solidarité internationale Montpellier-Rennes, dont je vais vous dire un mot, et en ouverture de cette soirée, nous aurons la projection d'un documentaire sur Madagascar.
Ah oui, ce documentaire, il s'appelle comment ?
Alors, le documentaire s'appelle, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le titre, Zanapa Bawaka, le néo-rebelle Malagasy. Il a été réalisé par Alban Biosa et Michel Tabé. Et je voulais préciser que le thème Malagasy est le terme utilisé à Madagascar pour désigner les habitants de ce pays. Les rebelles, ce sont ceux qui veulent changer les choses dans leur pays, qui luttent contre la corruption et les abus de pouvoir et qui veulent instaurer plus de démocratie à Madagascar.
Alors c'est un documentaire d'une trentaine, récent,
oui, de 2017. C'est un documentaire qui est récent, il dure une trentaine de minutes et il présente par des témoignages de personnes de toutes conditions sociales leurs perceptions et leurs attentes de l'exercice du pouvoir à Madagascar, dans leur pays. Donc le thème de la conférence, c'est Madagascar, un potentiel énorme et une pauvreté hors norme. L'énigme et le paradoxe malgache.
Et quels sont les intervenants ?
Alors les intervenants, ce sont trois scientifiques. Deux d'entre eux sont chercheurs à l'IRD. Et il s'agit de François Roubaud et de Mireille Zafinra-Coteau. Le troisième, Jean-Michel Vacheperger, est sociologue et maître de conférences à l'université à Lille.
Ils sont tous les trois auteurs d'un ouvrage.
Voilà, ils ont publié un livre, un ouvrage, qui s'appelle Madagascar, l'énigme et le paradoxe, économie politique. Il a été publié en 2017 par l'IRD. Il sera en vente et les auteurs dédicaceront leur livre.
Alors, ce qu'il y a de bien aussi dans votre rencontre, c'est la présence justement de nombreuses associations.
Oui, nous avons proposé à des associations de Montpellier qui mènent des actions de solidarité à Madagascar, qui sont diverses. Nous leur avons proposé de venir se présenter après la conférence et de proposer au public de l'information sur ce qu'elles font à Madagascar, comment est-ce qu'elles viennent en aide aux populations les plus démunies de ce pays, notamment les enfants, les femmes, les familles. Alors je vais citer ces 9 associations qui seront présentes. L'aide aux enfants malgaches, Amitié franco-malgache Firavanana, Couleur du monde, Envol, enfants de Madagascar, Format d'environnement, Greffe et Avenir Sakai, L'Appel et Zazakeli à la Sora.
Ah oui, en effet, vraiment beaucoup de solidarité vis-à-vis de Madagascar à Montpellier.
Oui, et je pense qu'il y en a même plus, c'est qu'on nous ne les connaissons pas, enfin elles ne se sont pas non plus manifestées, parce que nous connaissions quelques-unes de ces associations, dont une qui est membre de la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité Internationale.
Oui, deux même, deux. L'Appel et, oui, et Fia Vanana.
Greffe, non. Et de fil en aiguille, elles se sont fait passer le message entre elles, et elles ont demandé si elles pouvaient se joindre à ce groupe d'associations qui seront donc là ce soir.
Alors elles tiendront des stands dans une salle à côté de la conférence.
Oui, c'est ça. Voilà, et j'aimerais dire un mot sur le titre de cette conférence et le titre du livre, parce que j'aimerais éclairer cette façon de présenter la question de Malgache aujourd'hui. Un pays qui est riche de ses ressources naturelles, mais un pays qui est où règne une très grande pauvreté. C'est le cinquième pays le plus pauvre dans le monde. Des gens sont en détresse et en grande misère, notamment dans les grandes villes. C'est donc une question qu'on se pose. Pourquoi ce pays qui a tant de potentiel naturel et humain, comment aujourd'hui ce pays n'arrive-t-il pas à décoller? Chaque fois qu'il y a une période de croissance, où ça s'améliore, où la situation paraît s'améliorer, chaque fois une crise politique vient détruire les progrès qui avaient été amorcés. Et c'est vraiment dramatique. Donc, c'est une énigme et à laquelle les chercheurs scientifiques qui ont travaillé là-bas sur le terrain ont tenté d'apporter des éléments de réponse. Et c'est l'objet de leur livre et c'est l'objet de cette conférence.
Oui, ce qui est vraiment très bien et original, c'est que les scientifiques vont justement faire connaître au grand public leurs réflexions.
Voilà.
C'est trop souvent le rare.
Voilà. Et aussi, ils nous ont signifié, quand nous avons eu ce projet d'organiser cette conférence à Montpellier, ils ont signifié qu'ils seraient très heureux et intéressés de rencontrer le secteur associatif les Malgaches qui vivent à Montpellier pour dialoguer avec eux. Je pense qu'ils n'ont pas envie de rester dans une bulle qui pourrait être celle de leur recherche, mais qu'ils ont envie vraiment de transmettre et de dialoguer avec ces personnes de la société civile dont nous sommes à Montpellier, qui, pour des raisons diverses, s'intéressent à ce pays. Et ils vont régulièrement, ce qui est le cas des membres de ces associations.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà, qui restent au moins en lien par des actions qu'elles mènent sur le terrain, des actions concrètes.
Et en même temps, cela permet aux associations de se connaître entre elles.
Voilà, on a découvert que certaines se connaissent déjà, mais pas toutes. Et il y en a qui sont anciennes, comme Fira Vanana, qui est 25 ans, qui vient de fêter son 25e anniversaire, je crois, qui a fait une grande
fête. Voilà, nous la recevions justement, cette association, lundi dernier.
Voilà, il y en a d'autres qui sont plus récentes, elles sont diverses, et vraiment, je pense que ça sera très intéressant de découvrir ce que ces personnes ont mis en place dans la durée. Ce ne sont pas des actions ponctuelles qu'elles mènent, c'est dans la durée, avec des groupes, des populations à Madagascar.
Oui, et toujours à la demande justement de ces populations pour pouvoir ajuster au mieux leur aide.
Exactement. C'est pas. Je pense que chacune de ces associations a une histoire, chacune différente évidemment, qui remonte à des liens avec des Malgaches, des populations du territoire malgache, et ce depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui est venu seulement des Montpellierains, c'est vient aussi de la demande des Malgaches là-bas de travailler avec des Français ici. Et voilà.
Et je crois d'ailleurs que l'Université de Montpellier, depuis longtemps, a fait justement une part grande à cette grande île dans la recherche. Que c'est vraiment une tradition. à Montpellier. Alors, le Centre de documentation Tiers-Monde met bien sûr à la disposition du grand public des ouvrages, des revues, notamment l'ouvrage que ces scientifiques viennent de publier.
Oui, qu'ils vont présenter. C'est l'objet de cette soirée, de partager le contenu du travail de leur recherche qui est présenté dans cet ouvrage. Ouvrage qui est très spécialisé, qui est scientifique, mais qui est très bien fait parce que l'introduction et chaque chapitre aussi, une introduction et conclusion qui ramasse le contenu du chapitre et de l'ensemble de l'ouvrage et qui permet à un public non spécialisé, comme moi par exemple, de rentrer dans les problématiques et de comprendre de quoi il s'agit. Et c'est vraiment un ouvrage très bien fait, qui est à la fois un ouvrage scientifique et qui peut être un ouvrage grand public aussi.
Alors, je rappelle que cette conférence va se passer auprès du Centre de documentation Tiers-Monde, mais dans l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, ce soir, et qu'elle commencera à 18h.
À 18h, jusqu'environ 21h. Et donc, il y aura ces temps différents de 18h à 21h, avec, on insiste, un des temps d'échange entre les personnes qui seront là, entre les scientifiques et le public, et les associations, autour d'un apéritif qui sera servi en fin de soirée.
Alors, notez bien que c'est dès ce soir que vous pouvez rencontrer ces chercheurs et toutes ces associations qui s'intéressent à Madagascar.
Au 27 boulevard Louis Blanc, on y accède par le tramway en s'arrêtant au Corum, à l'arrêt Corum ou Louis Blanc.
Eh bien, nous allons écouter un peu de musique malgache pour reprendre ensuite avec Guy
Guyot.
Alors, reprenons donc avec Guy Guyot pour le collectif Stop Armes Nucléaires 34, car en fin de compte, il y a aussi un programme qui va être proposé au public montpelliérain concernant justement l'armement nucléaire.
Oui, tout à fait. Donc, nos auditeurs peuvent noter nos deux rendez-vous le dimanche 10 juin au cinéma Utopien, le dimanche matin à 10h, et le lundi 11 juin, salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot. Enfin, on reviendra ensuite sur le contenu de ces deux réunions d'information et de débat.
Oui, alors le collectif Stop Armes Nucléaires 34, qui existe depuis environ 2 ans, il a déjà organisé plusieurs fois un jeune public au moment des anniversaires d'Hiroshima Nagasaki, et il regroupe plusieurs organisations dont le MAN, Mouvement pour une alternative non violente, le Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, la Maison de la paix Amis de l'Arche, Pax Christi et Arrêt du nucléaire 34.
Voilà, tout à fait. Alors, donc plusieurs de ces mouvements, d'ailleurs, sont membres de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité internationale et sont engagés dans l'information, la sensibilisation par rapport à la force de frappe française depuis des dizaines d'années. avec un temps fort, notamment au moment de l'implantation des euromissiles en Europe et au moment de la crise de Cuba, avec l'installation de missiles aussi sur Cuba.
Alors, depuis, bien sûr, beaucoup de choses se sont passées, mais je pense que ce problème devient de plus en plus évident et que ça fait partie de notre actualité brûlante avec ce qui se passe en Corée du Nord, entre justement les États-Unis et la Corée du Nord.
Voilà, alors depuis l'époque de la fin de la guerre avec les deux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et l'avènement de l'URSS à l'époque comme deuxième puissance après les USA à avoir la force de frappe, un certain nombre d'autres États ont eu accès à cette force de frappe. Et l'argument de l'équilibre de la terreur qui a empêché des guerres mondiales, on peut constater quand même qu'elle n'a pas empêché de nombreux conflits très dévastateurs, d'une part. D'autre part, qu'au niveau plus actuel, il y a le problème de l'Iran qui a voulu également accéder à cette force de frappe. Donc il y a eu un accord avec un investissement diplomatique très très important notamment des États européens pour avoir un contrôle via l'agence internationale qui a certifié donc l'arrêt de cette construction de forces nucléaires pour l'Iran était respecté, et la dénonciation de cet accord par le président des États-Unis récent, et d'autre part le conflit avec la Corée du Nord et un certain nombre aussi d'essais, d'explosions et de tirs de missiles au niveau de la Corée du Nord, et qui montre que cet aspect de danger au niveau mondial est toujours très présent. Il faut préciser qu'aujourd'hui, bien sûr, ce sont toujours les deux grandes puissances, Russie maintenant avec 6800 têtes nucléaires et les USA avec 6600, qui arrive très largement en tête, mais juste derrière, c'est la France avec 300 têtes nucléaires devant la Chine et le Royaume-Uni. Et il faut y ajouter le Pakistan, l'Inde, Israël, plus la Corée du Nord en dernière position. Mais ça montre aussi ce danger de prolifération du nucléaire militaire et du risque de la moindre étincelle, disons, politique, qui peut effectivement déraper et amener à une catastrophe pour l'ensemble de l'humanité et de notre globe terrestre.
Alors, il s'est passé quand même un événement considérable. C'était le 7 juillet 2017. C'est un traité qui vient d'être réalisé par 122 pays à l'ONU.
Voilà, alors,
un traité d'interdiction des armes nucléaires.
Face à cette prise de conscience globale au niveau mondial, il y a eu effectivement l'Assemblée générale des Nations Unies qui ont mis ce point-là à l'ordre du jour, et ce traité d'interdiction des armes nucléaires, au-delà de l'interdiction des essais qui avait déjà été une première étape, a fait une progression, mais ce n'est qu'un premier pas, puisque pour que cela soit traduit par des engagements concrets des États au niveau de la France, il faut d'une part que des États eux-mêmes signent. Alors là, on pourra noter que les États que j'ai cités tout à l'heure et qui ont la force de frappe, évidemment, ont refusé de même de voter au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait suffisamment d'États à la fois qui signent le traité et qui le ratifient. Actuellement, on est au tout début, puisqu'il n'y a que 7 États qui ont ratifié, 57 l'ont signé, 7 États l'ont ratifié, la Guyane, le Saint-Siège, la Thaïlande, Guyana. Le Mexique, le Venezuela, Cuba et le Vietnam. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. En ce qui concerne la France, alors on est concerné, bien sûr, puisqu'on est détenteur d'une force de frappe française qui n'est pas négligeable, puisque, comme je vous l'ai dit, on arrive au troisième rang, avec également des capacités de transporter, d'envoyer via sous-marins et les forces aériennes ces têtes nucléaires là où on le veut, d'une part. Et d'autre part, il y a eu le phare a été mis sur le mouvement mondial d'opposition à cette force de frappe répartie dans plusieurs États, à travers donc le prix Nobel de la paix attribué l'année dernière à l'Organisation internationale, la coordination contre l'arme nucléaire, et qui a mis un phare très positif justement sur la mobilisation de l'ensemble des mouvements, dont ceux qui sont en France engagés dans cette lutte contre le développement de la force de frappe et pour une réflexion globale politique sur cet aspect de la validité de la dissuasion d'une part, et quel type autre de moyens de non seulement de défense, mais de construction d'un mode d'un monde de paix au niveau de l'ensemble de la planète.
Alors cette réflexion va être proposée au Montpelliérain dans deux étapes. Vous avez parlé d'un film d'abord.
Oui, alors c'est un film qui rassemble à la fois un exposé, un rappel historique de l'évolution de la création de cette force de frappe, d'abord américaine, et puis ensuite du développement, de la diffusion, où les scientifiques, bien sûr, ont joué un rôle très, très important, mais également les investissements très, très, très importants en termes de logistique des deux grandes puissances de l'époque, URSS et USA. Et ça se poursuit. Ensuite, au niveau de la France plus particulièrement, il y a une commission, jusqu'à présent, ça a été en France très très difficile de pouvoir avoir un débat public véritable.
Il y a eu comme il n'a jamais eu lieu, semble-t-il.
Voilà, il n'a jamais eu lieu. Alors que là, il y a eu une ouverture, en quelque sorte, puisque la commission des affaires étrangères a chargé en décembre 2017 les députés Michel Fauget du MoDem et Jean-Paul Lecoq du groupe des Républicains d'une mission d'information sur 50 ans après le traité de non-prolifération nucléaire, où en est-on ? Alors cette mission a auditionné un certain nombre de personnalités aussi bien politiques que militaires, et donc c'est quand même un progrès puisqu'il y a déjà eu un débat au niveau de l'instance parlementaire. Mais on peut craindre que finalement cette mission, le rapport de cette mission ne soit rendu qu'en juin ou juillet, c'est-à-dire après le vote de la loi de programmation nucléaire militaire qui prévoit d'augmenter des crédits destinés justement à la modernisation de systèmes d'armes nucléaires. C'est toujours le même problème. Il y a vote de crédits d'engagement avant qu'il y ait eu le débat politique général. Et c'est pour cela que c'est important qu'il y ait cette information générale le plus possible dès maintenant au niveau des publics, et qu'il puisse y avoir le plus de monde possible qui s'associe à une pétition adressée au président de la République pour que cet aspect-là soit pris en compte avant le vote lui-même des deux assemblées sur cette loi de programmation militaire.
Vous pouvez rappeler justement ce site où on peut signer.
Alors là, c'est c'est-à-dire qu'il y a un site qui s'appelle abolition des armes nucléaires www.mdsh.org. Et puis, il y a voir aussi le site de l'ICANN France pour les informations générales au niveau mondial. C'est icanfrance.org. Et puis, pour également une adresse mail, s'il y a des questions plus précises, abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr.
Ah oui, merci. Alors, pouvez-vous nous raconter en quelques mots le film qui est proposé le dimanche?
Eh bien, ce film, c'est donc...
La bombe et nous.
La bombe et nous, donc qui est un film qui interview un certain nombre de personnalités, comme je le disais, qui fait un rappel historique et qui, en même temps, montre les enjeux actuels qui sont tout à fait... Alors, il sera présenté le dimanche 10 juin au cinéma Utopia, 5 rue du Docteur Peuzet, à 10h le matin, toujours la formule habituelle, avec un petit déjeuner d'accueil et avec la projection du film La bombe et nous, de Xavier-Marie Bonnet. Donc, suivi d'un débat avec Dominique Lalanne, physicien nucléaire, ancien directeur de recherche au CNRS et président de Abolition des armes nucléaires, maison de vigilance.
C'est un bulletin d'ailleurs qui est reçu par le Centre de documentation Tiers-Monde.
Voilà, donc le public peut aller le consulter au Centre de documentation Tiers-Monde. Et le lendemain, salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot, à 20h, une conférence bon, qui va compléter cette première rencontre du dimanche 10 juin matin. Une conférence avec Dominique Lalanne, armes nucléaires interdites et après, et qui rappellera qu'un traité international interdisant les armes nucléaires est en cours de ratification à l'ONU et qu'il faut interpeller notre gouvernement pour qu'il signe effectivement ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas fait même à l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'a pas voté positivement l'année dernière, et en même temps de pouvoir répondre à cette question: quelles sont les raisons qui poussent les États nucléaires à conserver ces armes? Pourquoi les populations semblent indifférentes à cette menace de destruction? Comment faire pour obtenir leur abolition? Donc toute une invitation à une prise de conscience et à un engagement positif, même s'il n'est pas trop important, ne serait-ce que des signatures de pétition pour interpeller nos élus et notre gouvernement actuel en France.
Eh bien, merci Guy Guyot. Alors, je passe, peut-être écoutons un peu de musique rapidement. Je passe rapidement au calendrier car il y a beaucoup de choses à vous annoncer. Je rappelle, ce soir, bien sûr, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, la conférence Madagascar, un potentiel énorme et une pauvreté hors normes. C'est à 18h. Et puis, des annonces donc, qui nous sont demandées. Le cercle de silence sur la comédie aura bien lieu demain mardi de 18 à 19h. Venez nombreux à ce cercle. Vous le savez, il y a un projet de loi sur la situation des mineurs, des étrangers, des demandeurs d'asile. Et la situation des mineurs étrangers s'est beaucoup dégradée. Donc c'est important de venir manifester notre demande d'une autre politique concernant les migrations. Également, dans ce sens, il y a une marche qui est organisée, une marche festive à 7, le dimanche 3 juin. Elle part du Mall Saint-Louis à partir de 11h et va jusqu'au centre de rétention de cette ville. Munissez-vous d'un pique-nique, il y aura des animations. Le parking recommandé en arrivant de Montpellier dès 10h est au mât coulé avant d'approcher le centre-ville. Les migrants sont des nôtres, demande cette marche. Notre objectif, un accueil digne et solidaire, parce que l'humanité de demain se construit avec l'accueil d'aujourd'hui. Je rappelle dans le même sens que la CIMADE a lancé une pétition « Faisons respecter le droit d'asile, sortons de l'enfer du système Dublin » et que vous êtes appelés bien sûr à signer cette pétition sur le site de la CIMADE. Également, vous êtes invité pour un sourire d'enfant à une soirée au restaurant Trinquefougas au Nord, 1581 route de Mende à Montpellier, le jeudi 31 mai à partir de 19h30. C'est une soirée solidaire et vigneronne. Les bénéfices seront intégralement reversés à deux associations pour un sourire d'enfant et Charana. Le prix du repas est 35 euros avec repas, dégustation de vin, chant, etc. Pour les réservations, vous pouvez vous adresser au 06 07 37 46 52 ou par mail à languedoc@pse.org. Alors, je rappelle aussi que pour le triathlon du Salagou, Enfants du Mékong participe avec des bénévoles signaleurs au bénéfice de ses actions en Thaïlande et demande encore des participants. Donc, il faut être majeur et être muni du permis de conduire. Vous pouvez vous adresser à Jean-Marie J.M. Carrier, de Zerier, @wanadoo.fr ou bien au 04 67 72 37 15 pour vous inscrire pour ce triathlon qui a lieu le samedi 2 et le dimanche 3 juin. Le vendredi 8 juin, à la Grotte des Demoiselles, à Saint-Bosile-de-Putois, à 19h15, c'est toujours Enfants du Mékong qui vous invite à un concert de jazz organisé par le Lions Club de Ganges-le-Vigan au profit d'Enfants du Mékong, donc qui fête cette année ses 60 ans. Les places sont limitées. Il faut vous inscrire donc auprès de Christine Berteuil, berchrisdm34@gmail.com. Vendredi 1er et samedi 2 juin a lieu aussi le festival aux sciences citoyennes à l'espace Saint-Charles et place Albert Ier à Montpellier. Découverte, échange autour des enjeux de la transition énergétique et c'est organisé par les Petits Débrouillards. Enfin, je rappelle que le mercredi 6 juin à 20h, au salon du Belvédère au Corum à Montpellier, a lieu une conférence « Bure, fabrique du consentement et résistance à l'enfouissement ». C'est une conférence de Julien Badassara, qui est journaliste, qui collabore avec Acrimed, l'Action Civique Média. C'est un militant anti-nucléaire. Ses déplacements à Bure lui ont permis de collecter des informations et beaucoup de matière à réflexion. Il a écrit dans Le Monde diplomatique un article sur la fabrique du consentement mise en place pour imposer le projet d'enfouissement au Géo. L'entrée de cette conférence est libre. Elle est organisée par Arrêt du Nucléaire 34 et les Amis du Monde diplomatique. Également, dans le même sens, le samedi 7 juin aura lieu une manifestation nationale sur justement Bure Cigéo. Tous à Bar-le-Duc contre la poubelle nucléaire. Un voyage en bus sera organisé au départ de Montpellier par Action
Arrêt
du nucléaire 34, pardon. Le prix par personne est de 54 €. Le départ le vendredi 15 à 22 h, le retour le dimanche matin à 5 h. Il est bon de réserver votre place auprès de Anne, A-A-2-N-E, point, Freys, F-R-E-I-2-S, @sfr.fr, en indiquant votre nom et votre téléphone. Il y aura effectivement aussi, dans la semaine qui va suivre, un rassemblement pour protester contre la visite en France de Benyamin Netanyahou et l'annulation de la saison croisée France-Israël. Cela aura lieu le 5 juin. Nous vous donnerons plus de précisions dans la prochaine émission. À bientôt, chers auditeurs.